Bonjour, bienvenue à Culture et Politique sur Radio Courtoisie. Richard Haddad au micro avec Pierre-Henri, comme tous les lundis à 17h.
Bonjour Richard, bonjour à tous les auditeurs, ravi de vous retrouver.
Aujourd'hui au programme, la République fédérale de Kabylie, avec son gouvernement provisoire qui a été... Son gouvernement en exil, malheureusement en France, qui a été proclamé le 14 décembre 2025. Et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir le président de cette République fédérale de Kabylie, M. Ferhat Mehni.
Bonjour.
Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous de m'avoir invité.
Alors, ma première question qui m'intrigue, pourquoi République fédérale de Kabylie?
Parce que nous ne souhaiterions pas reproduire l'échec du jacobinisme qui existe un peu partout, qui est consacré à travers tous les pays anciennement colonisés par la France. Le jacobinisme a produit des situations dramatiques où la centralité du pouvoir a fait qu'on étouffe l'ensemble des expressions régionales. La Kabylie est composée de plusieurs régions. Il y a une unité territoriale, il y a une unité linguistique, il y a une unité culturelle. Mais la géographie a fait qu'il y a des régions particulières auxquelles il faut absolument accorder un gouvernement régional de telle sorte qu'elle ait son but, chaque région ait son budget et puisse décider des lois locales qu'il veut bien instaurer. C'est un projet futuriste pour la Kabylie, mais qui consacre une réalité bien réelle.
C'est intéressant de rappeler peut-être aux auditeurs qu'il y a une langue kabyle, ce que les Algériens, le gouvernement algérien n'admet, c'est pas qu'il n'admet pas, c'est qu'il essaye de l'étouffer, non, il me semble.
Il y a, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, à rappeler que toute l'Afrique du Nord est originellement berbère, ou amazigh, comme nous disons dans notre langue.
Donc antérieur, c'est un peuple qui était là avant la conquête arabe. J'essaie d'être pédagogique avec les auditeurs.
Nous étions là depuis...
Vous êtes les indigènes.
Depuis les Phéniciens, les Romains, et puis les Vandales, les Byzantins. Nous avons connu tout ce beau monde qui a traversé nos terres. Mais la Kabylie, étrangement, est restée elle-même toute seule. Et pour rappeler un peu sur le plan linguistique, donc il y a un ensemble amazigh, un ensemble berbère linguistique, mais les langues sont différentes. Mmh. C'est comme une ère linguistique slave. Il y a plusieurs langues slaves à l'intérieur.
Comme le latin avec l'italien, l'espagnol, le français.
Absolument. Donc le kabyle est une langue amazigh, mais différente des autres langues.
Voilà. Et vous avez des difficultés avec le gouvernement algérien,
je suis l'un des pionniers, l'un des anciens militants linguistique de la Kabylie. En Algérie, on revendiquait une langue berbère parce que en 1963, la Kabylie avait pris des armes contre l'Algérie et par la suite, tout ce qui revendiquait la Kabylité était passible de la cour martiale. C'était la dictature terrible de Boumdiène. Nous en vivons une autre pire que celle de Boumdiène, mais ceci est une autre histoire. Et donc, la façon d'échapper un peu à la répression, c'était donc de trouver un paravent. Et c'était la berbérité, c'était l'amazighité. Donc on se disait langue berbère, mais une fois que nous sommes arrivés en démocratie de façade, en 1989, nous étions prisonniers, toujours de ce schéma berbériste. Et en 1994-1995, j'ai mené personnellement une opération de boycott scolaire pendant toute une année et qui a débouché pour la première fois à la reconnaissance de la langue, de l'identité et de la culture berbère. Sauf que nous nous étions piégés nous-mêmes. Au lieu de revendiquer la langue kabyle, nous étions en retrait de cela parce que nous étions dans des schémas éculés déjà. Donc, la reconnaissance de la mazérité et de la langue berbère permet, dans l'école de la Kabylie, d'enseigner du kabyle. Mais ce kabyle n'est pas reconnu en tant que langue par l'Algérie. Voilà, pour compléter un peu le schéma de la chose.
Et alors, comment en êtes-vous arrivé en fait à cette situation d'exil? Qu'est-ce qui a créé la rupture en fait dans votre combat pour la berbérité et la Kabylie?
Il faut dire que c'est une tradition des leaders kabyles d'être exilés. Hossein Ait Ahmed a passé de 1966 jusqu'en 1989 sa vie en exil. Krim Belkacem, qui était le signataire des accords d'Évian, était un opposant au régime d'Alger dès l'indépendance de l'Algérie et a été assassiné en exil. Bien d'autres encore ont vécu en exil. Donc, cette tradition émane du fait que l'Algérie traque les représentants de la Kabylie. Il y a cette situation paradoxale dans laquelle le pouvoir a peur que les Kabyles s'emparent du pouvoir et en même temps, il ne faut pas qu'ils se détachent de l'Algérie. Et il y a cette contradiction
parce
chez
que
eux.
Oui, donc c'est intéressant ce que vous venez de dire. Ça veut dire que non seulement ils en ont peur, ils ont peur que la Kabylie se sépare et se déclare indépendante, et en même temps, ils ont même peur que des Kabyles prennent le pouvoir
sur l'ensemble de l'Algérie.
Et donc, toutes les méthodes, toutes les ficelles sont usées pour empêcher que des Kabyles puissent arriver au pouvoir. Je rappelle ce que j'ai dit dans une interview récente. Par exemple, l'Algérie a connu, 17, 18, 20 premiers ministres depuis l'indépendance. Parmi eux, il n'y en a eu que trois. Le premier, c'était Qasdim El Bah en 1989, et il a été abattu en pleine rue dans une ville de banlieue d'Alger. Et c'était les services algériens qui l'avaient liquidé.
C'était un kabyle.
Hein, c'était le premier ministre d'origine kabyle.
D'origine kabyle.
Bien qu'il ne soit pas kabyliste, c'est quelqu'un qui était inséré dans un clan.
Absolument, oui.
Voilà, il faisait partie du clan du Boumdiène, il a été abattu en pleine rue. Deux autres premiers ministres, c'est Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia. Ces deux premiers ministres sont en prison depuis 2020. On ne va pas me faire croire, personne ne croira, que ces premiers ministres kabyles sont plus corrompus que leurs homologues. Mais il n'y a que qu'on punisse pour avoir gouverné l'Algérie.
Vous donc, savez bien que la corruption est une excuse pour faire taire les concurrents.
Les opposants, oui.
Oui, tout simplement. En fait, Hamdou Yahya avait des prétentions présidentielles. Oui. Et donc, le fait de le faire taire et de lui mettre toute une histoire de lingots d'or sur... Peut-être que c'était vrai, hein. Mais il n'était pas le seul à recevoir des lingots d'or des Émirats arabes ou des monarchies du Golfe. Mais disons que c'est juste le fait que les Kabyles sont traqués, tandis que tous ceux qui ont été premiers ministres ont exercé des responsabilités sont en liberté et ne sont pas inquiétés.
On se méfie beaucoup des officiels kabyles, même s'ils font partie, même s'ils sont intégrés totalement dans la classe politique algérienne, ils sont un peu mis à l'écart et on s'en méfie.
Et suspects, en fait.
Suspect, oui.
Rappelons encore une réalité, c'est que il n'y a de kabyles qui gravissent la hiérarchie militaire. Hamdou Yahya est aussi, tout en étant un énarque, était aussi un élément des services algériens. Ne gravissent la hiérarchie qu'une fois qu'ils auront fait du zèle et démontré qu'ils ne sont pas kabyles et qu'ils sont vraiment anti-kabyles. Et ce, depuis Boumdiène, depuis même Ben Bella en 1962-63, tous les gouvernements ont eu un, deux, trois ministres kabyles. Mais ces ministres n'ont jamais été des représentants de la Kabylie. C'est juste des éléments cooptés pour dire que la Kabylie n'est pas oubliée, oui. Y compris dans la hiérarchie militaire. Il y a effectivement quelques Kabyles qui ont obtenu les grades de généraux, mais d'abord, ils n'ont pas le véritable pouvoir, et puis, ils n'aboutissent à ce sommet de la hiérarchie qu'une fois qu'ils ont fait tous les zèles nécessaires contre les Kabyles.
Pardon. Vous nous parliez tout à l'heure de la difficulté qu'il y a à apprendre en fait la langue kabyle officiellement dans le système scolaire algérien. Est-ce qu'il y a aujourd'hui d'autres types de vexations ou de discriminations, voire de persécutions que les gouvernements algériens successifs imposent à l'ensemble des Kabyles ?
La Kabylie est sous siège militaire. D'abord, il y a des brigades de gendarmerie que l'on crée un peu partout. Il y a des casernes militaires qui sont placées un peu partout, comme si la Kabylie allait s'insurger militairement. Or, nous avons décidé de lutter pacifiquement. Donc, nous posons une question politique et non pas militaire pour l'Algérie. Et quant à la question politique, ils n'ont pas de solution. Concernant les discriminations, les Kabyles qui n'arrivent pas à faire du zèle dans la hiérarchie militaire sont mis à la retraite à 40 ans, 45 ans, 46 ans. Hein? Quand on voit Shingriha, qui est le général-major qui est au sommet de la hiérarchie militaire et qui a plus de 80 ans, on comprend qu'on dégage les Kabyles de telle sorte qu'ils ne constituent pas un clan à l'intérieur et qu'ils ne prennent pas le pouvoir. Mais ce sont des militants politiques et la situation d'expression politique qui est complètement, aujourd'hui, étouffée. Oui. Dans la mesure où il y a eu, en 2021, trois éléments. Le premier, c'est d'avoir classé le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, que j'ai l'insigne honneur de présider et qui est entièrement pacifique, a été classé comme terroriste. Vous voyez l'Algérie qui soutient le Hamas, qui soutient le Hezbollah, qui soutient le Polisario, qui organise le terrorisme international, hein, nous taxer de terroristes alors que nous sommes pacifiques. C'est aberrant, mais c'est absurde, mais c'est telle est la situation. Ensuite, ils ont mis sur pied ils ont mis en vigueur une loi pour nous mettre en prison qui s'appelle l'article 87 bis du code pénal, par lequel revendiquer sa Kabylité était passible de l'étiquette de terroriste, passible de prison, voire de torture auparavant, et la période de l'interrogatoire, de la garde à vue. Et dans la garde à vue, ce ne sont pas des policiers qui opèrent, ce sont des militaires et des torsionnaires particulièrement, c'est 14 jours. Donc, cet article a été spécialement créé pour terroriser la Kabylie, mettre tout le monde en prison. Et il y a eu, depuis 2021, donc, avec cette loi, 13 000 Kabyles arrêtés, torturés, condamnés. Et il y a, celui qui, aujourd'hui, like sur Facebook, sur les réseaux sociaux, une publication du MAC ou du président du MAC va être poursuivi pour apologie du terrorisme. Rien qu'un like sur Facebook. Dernièrement, un professeur d'histoire qui enseigne à Blida, à l'université de Blida, a été arrêté juste parce qu'il a fait un like sur une publication dans laquelle le MAC était cité. Donc vous voyez, maintenant, il y a tout le monde qui a peur d'aller en prison. Et personnellement, j'ai demandé à tous les militants de la mettre en veilleuse, de ne pas s'exposer, de faire en sorte que on ne trouve pas de prétexte pour les remettre en prison. Oui. Voilà. Actuellement, il y en a plus de 500 Et rien qu'au mois de janvier, il y a eu 150 personnes qui ont été arrêtées et les arrestations continuent.
Vous-même, vous êtes. Alors, si vous êtes exilé en France, c'est parce que vous êtes menacé et le régime algérien vous réclame votre tête, hein, si je me souviens bien, au gouvernement français. Il réclame votre extradition.
Cela a commencé quand j'ai demandé d'abord une autonomie. En 2001, l'Algérie avait tiré sur nos enfants et nous avons décidé de prendre notre destin en main. Donc, nous avions réclamé le 5 juin 2001 dans une Kabylie à feu et à sang.
Quand vous dites de tirer sur nos enfants, ça, ils ont tiré sur des manifestants.
Sur des manifestants, bien sûr. Des manifestants pacifiques. À balles explosives, même.
Ah oui.
Donc, nous avons décidé de prendre notre destin en main et de réclamer une autonomie. Donc, en 2008, il y a eu un signe qui montrait que la répression allait s'abattre sur moi. Donc, en ayant quelques rumeurs et quelques indiscrétions des officiers du pouvoir, je suis venu en France. Et ça n'a pas raté. Au mois de janvier, un journal algérois a rendu public un mandat d'arrêt et un mandat d'amener émis par la justice algérienne contre moi. Depuis, je ne suis plus reparti en Kabylie, mais l'influence du MAC, la structure sur place, fonctionnait toujours, et au temps de Bouteflika, disons que malgré ce mandat d'arrêt qui était contre moi, il y avait des espaces de liberté, il y avait des espaces d'expression suffisamment porteur pour nous, dans la mesure où le 20 avril, chaque 20 avril, nous célébrons ou nous commémorons la révolte de la Kabylie pacifique de 1980 et des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue à chacun de nos appels. Depuis l'arrivée de Tebboune, il y a fermeture du champ politique et répression soldée. Donc, la période de Bouteflika, comparée à celle d'aujourd'hui, c'était de la démocratie.
Oui, c'est dire.
Voilà. Mais aujourd'hui, on est chez Kim Il-jung. Kim Jong-un. Sincèrement, c'est de la terreur. Et c'est un pays qui, c'est un État, un pouvoir, qui stratégiquement est l'allié des dictatures, notamment de la Russie, de la Chine, de l'Iran, du Venezuela. Et
qui se ressemble, s'assemble. Vous savez, lorsqu'on a vu les Iraniens tirer sur leur population, finalement,
voilà,
les pratiques sont les mêmes. Les dictateurs qui se comprennent. Voilà.
Oui, ils se comprennent, ils ont la même façon de faire.
Ouais. Et donc, l'Algérie a adopté un système fermé de caste militaire qui fasse que, voilà, personne n'a le droit à ne serait-ce que faire monter une entreprise si, derrière lui, il n'y a pas un général qui n'apporte aucun centime à l'investissement, mais qui a la moitié de la rente. C'est comme ça que le système économique algérien est fait. Voilà, toute l'économie a été étatisée et l'économie privée est complètement prise en otage par les généraux, la classe des généraux algériens.
On va faire une pause pour le bobinon et on reprend la fin de l'émission pour conclure cette émission.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
On reprend donc cette émission. Une question concernant la fondation de la proclamation de l'indépendance de la République fédérale de Kabylie. Comment elle était perçue? Alors j'imagine bien comment elle est perçue par le régime algérien. Il réclame vos têtes, il réclame votre extradition. Mais comment elle est perçue à l'international? Avez-vous des États amis des mouvements? Et qu'en est-il du gouvernement français?
Excusez-moi, je n'ai pas répondu à toutes vos questions. Depuis 2021, il y a eu des procès. Il y a eu des près d'une centaine de procès dans lesquels ils m'ont tous mis, ils m'ont impliqué, mais inculpé. Et il y a plus de 20 condamnations à mort, plus de 20 condamnations à vie, de prison à vie, et plus de 20 condamnations à 20 ans de prison. Voilà. Donc le palmarès est un peu complet là. Mais je ne suis pas le seul. Bien des éléments autour de moi qui sont en liberté sont aussi condamnés à mort. Il y a 5 personnes avec moi qui sont condamnées à mort. Et il y a donc la marche de la Kabylie vers son destin. Donc depuis 2001, nous avons décidé de prendre notre destin en main. Nous avons proclamé la nécessité, le 5 juin 2001, d'un statut particulier de large autonomie pour la Kabylie. Jamais l'Algérie n'a dénié, ne serait-ce que, demander à ce qu'on discute du projet. Voyant qu'il n'y avait strictement aucune réponse, nous-mêmes, par notre expérience, par nos voyages, par nos lectures, par nos informations, avons décidé de passer à un palier supérieur, celui du droit à l'autodétermination. En voyant que tous les peuples sous régime sous statut d'autonomie, revendiquent leur indépendance après. Donc pourquoi mettre dans une impasse la Kabylie, une impasse d'autonomie, alors que nous pouvons d'ores et déjà réclamer une indépendance? Donc à partir de 2013, après l'installation du gouvernement kabyle provisoire à l'époque, le 1er juin 2010, nous sommes passés à la revendication du droit à l'autodétermination. En 2017, nous avons déposé auprès de l'ONU, un mémorandum réclamant le droit à l'autodétermination de la Kabylie en arguant de l'ensemble des, en donnant toutes les raisons nécessaires pour ce droit à l'autodétermination. En 2019, il y a eu un congrès du MAC en Kabylie qui est passé de l'autodétermination à l'indépendance, donc en tant que revendication principale. En 2024, nous avons proclamé la renaissance de l'État kabyle. L'État kabyle, rappelons-le, existait bel et bien, même au temps de la France, puisque l'Algérie, en tant qu'État, a été créée le 14 octobre 1839, et la Kabylie n'a été annexée qu'en 1857. Et les cartes géographiques de l'époque, elles sont toujours là, montrent bien une Algérie française et une Kabylie indépendante. Donc, après un soulèvement populaire de grande ampleur, la Kabylie avait mobilisé 25 000 hommes en 1871, et malheureusement, ils n'avaient pas la technologie et l'organisation nécessaire pour vaincre l'armée française. Donc, il y a eu nécessité d'aller vers autre chose. Mais la Kabylie continuait, malgré la colonisation, de vivre sous droit coutumier kabyle. C'est-à-dire que l'État français n'avait pas prise sur le réel, sur la justice, sur le fonctionnement de la société. On croyait obtenir notre indépendance par celle de l'Algérie, malheureusement, un colonialisme français a été remplacé par un colonialisme algérien. Et depuis 1963, nous avons pris les armes contre Alger, et donc il y a toujours cet esprit d'indépendance qui nous a toujours habités. Nous sommes passés pédagogiquement par un certain nombre d'étapes pour reconstruire la conscience nationale kabyle, la rebâtir. Une fois qu'elle est arrivée, donc nous avons été dans nos droits légitimes de faire renaître l'État kabyle en demandant à l'État algérien de prendre cela en considération et de prendre la langue avec nous. En disant, d'ici, c'était passé le 20 avril 2024, devant le siège de l'ONU, et je suis même intervenu dans le cadre des peuples autochtones, du Forum des peuples autochtones, à l'ONU, à New York, pour annoncer l'événement. Donc, nous avons proclamé devant le siège de l'ONU la renaissance de l'État kabyle, et nous avons appelé le régime algérien à prendre la langue avec nous pour organiser les échéances référendaires, les modalités des échéances référendaires pour que le peuple kabyle puisse s'exprimer librement et démocratiquement. Il n'y a eu aucun contact qui a été pris. Qu'est-ce qui s'était passé? Nous devions faire l'annonce de cette proclamation d'indépendance pour le 20 avril, parce que le 20 avril est une date symbolique pour nous. Puis nous l'avons reporté en disant que nous n'avons pas suffisamment donné de temps au régime algérien. Nous l'avons reporté au 14 juin, qui est la journée de la nation kabyle, et qui rappelle une manifestation gigantesque faite par la Kabylie le 14 juin 2001 pour revendiquer la satisfaction d'une plateforme de revendication. Voilà. Et cette démarche a fait en sorte que nous en soyons arrivés à cette proclamation, mais en disant au régime, prenez langue, si vous ne prenez pas langue, sachez que nous allons proclamer notre indépendance. Et cette indépendance...
Allez-y, parce que l'émission est terminée, mais je voudrais...
arriver à la fin.
Ouais. Nous avons dit que nous allons proclamer cette indépendance si vous ne prenez pas langue avec nous. Et surtout, nous avons posé aussi trois préalables. Un, l'abrogation de l'article 87 bis, la cessation des poursuites contre les militants et la libération de l'ensemble des prisonniers. Rien n'a été fait. Donc, nous avons aussi interpellé l'État algérien de manière officielle. J'ai rédigé une lettre personnellement au président algérien et dont j'ai reçu l'accusé de réception de la part d'El Mouradia, du siège de la présidence. Donc, n'ayant aucune réponse, nous avons choisi la date anniversaire de la reconnaissance du droit des peuples à l'autodétermination par l'ONU de 1960, décembre 1960, c'est le 14 décembre, et nous l'avons fait.
Merci.
Merci pour toutes ces explications. Merci pour votre présence. On arrive à la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Culture et Politique.
Merci, à bientôt.